Chapitre 3 à 5 Le Temple. Chapitre 3 et 4 Les chapitres 3 et 4 correspondent aux chapitres 6 et 7 du premier livre des Rois, mais en diffèrent en ce qu'ici le Temple a une signification particulière. Tandis que dans le livre des Rois il est d'un côté le lieu où Dieu demeure avec les siens, et de l'autre le centre de son gouvernement au milieu d'Israël, il est, dans les Chroniques, comme nous l'avons déjà remarqué, le lieu où l'on s'approche de Dieu pour lui rendre culte, la maison de sacrifice. Versets 11 et 12. En parlant d'un lieu d'approche, nous ne faisons pas allusion au pécheur qui vient par le sang de Christ pour être justifié devant Dieu. Nous pensons à l'adorateur qui entre par le même chemin dans le sanctuaire. C'est ainsi qu'on voit dans l'Épître aux Romains le pécheur justifié par le sang de Christ, tandis que l'Épître aux Hébreux nous introduit par le même chemin dans le lieu très saint. Le fait que le temple est présenté comme lieu d'approche explique tous les détails de ces chapitres. Nous y rencontrons l'autel d'airain et le voile, chapitre 3 verset 14 et chapitre 4 verset 1, omis dans la description du temple au livre des rois. D'autre part, les demeures des sacrificateurs mentionnées dans ce dernier manquent dans les chroniques. Le prophète Ézéchiel, qui nous fait non pas le tableau typique, mais la description réelle du règne millénaire de Christ, réunit dans la description du temple, chapitre 40 à 45, les caractères des livres des rois et des chroniques. Nous y trouvons à la fois l'autel, la porte du sanctuaire, les demeures des sacrificateurs, les attributs du gouvernement de Dieu. Ézéchiel 40 verset 47, 41 verset 22, 41 verset 6, 41 verset 18. C'est qu'en effet le temple d'Ézéchiel représente l'Éternel, Christ demeurant au milieu d'un peuple de sacrificateurs, exerçant son juste gouvernement, est devenu le centre du culte d'Israël et des nations, tandis que les livres des rois et des chroniques, pour nous faire mieux entrer dans ses gloires, les présentent l'une après l'autre devant nos yeux. D'autres détails frappants confirment ce que nous venons de dire. Les chroniques ne mentionnent ni sacrifice pour le péché, ni sacrifice pour le délit, et l'autel y est uniquement le lieu de l'holocauste et du sacrifice de prospérité. Ézéchiel, par contre, insiste sur le sacrifice pour le péché comme préparation à toutes les autres offrandes, Ézéchiel 43 versets 25 à 27, et les mentionne ensuite sans en omettre aucune, chapitre 45 verset 25. Quelques mots encore sur l'autel d'airain. Cet autel de Salomon occupe, dans les chroniques, une place très importante. Ce n'est pas l'autel du désert, conservé à Gabaon, figure de la manière dont Dieu vient rencontrer le pécheur et peut rester juste en le justifiant, mais l'autel de l'Holocauste sans lequel on ne peut s'approcher de lui. Les dimensions de l'autel de Gabaon sont tout autres que celles de l'autel de Salomon. Le premier a 5 coudées de longueur et 5 de largeur sur une hauteur de 3 coudées. L'autel de Salomon, chapitre 4 verset 1, est long de 20 coudées, large de 20 coudées et a 10 coudées de hauteur. Les deux dimensions principales sont exactement les mêmes que celles du lieu très saint. Chapitre 3 verset 8, 1 roi 6 verset 20, Ézéchiel 41 verset 4. L'autel, Christ, s'adapte parfaitement au sanctuaire. Les gloires du lieu très saint correspondent à la grandeur et à la perfection du sacrifice représenté par l'autel. De plus, comme nous l'avons dit, l'autel étant spécialement ici l'expression du culte, ce dernier a aussi les mesures du sanctuaire, sans être parfait dans toutes ses dimensions, il est digne, au plus haut point, de la scène millénaire qu'il représente. Tout ce qui a trait au gouvernement millénaire de Christ, et même aux attributs de ce gouvernement, manque entièrement dans les chroniques. Ainsi, la maison de la forêt du Liban, siège du trône judiciaire, de même le palais du roi, de même encore les chérubins, attributs du gouvernement, représentés partout dans le livre des rois, sur les murailles du temple et jusque sur les ustensiles du parvis. S'agit-il même de la personne de Salomon et de ses actes, la description que les chroniques en donnent est simplifiée à dessein. Le roi nous y est présenté, non pas en voie d'accroissement, comme dans le livre des rois, mais établi sur le trône selon les conseils de Dieu, doué de sagesse parfaite, entouré de richesses et de gloire. Aucun détail ne nous est donné sur l'exercice de sa sagesse, soit pour discerner le mal, soit pour le juger, soit pour enseigner le bien par ses paroles et ses écrits. Voyez 1 Roi 3, versets 16 à 28, 1 Roi 4, versets 29 à 34. Salomon est placé devant nos yeux sur son trône dans une attitude pour ainsi dire immuable. La paix règne, les conseils de Dieu à l'égard de son roi sont accomplis, et ce roi lui-même est Dieu. Cette scène de paix et de bonheur a son point de départ sur la montagne de Morija, détail, notons-le bien, qui manque dans le livre des rois. Et Salomon commença de bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, où l'Éternel était apparu à David son père, sur l'emplacement que David avait préparé dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. Chapitre 3, verset 1. C'était d'abord à Morija qu'Abraham avait offert Isaac sur l'autel et l'avait recouvré par une sorte de résurrection. Là, il avait été pourvu à tout ce qu'exigeait la sainteté de Dieu. C'était ensuite à Morija que, lors de la faute de David, la grâce s'était glorifiée vis-à-vis du jugement. Le règne de paix de Salomon est donc établi à la suite de la résurrection sur le principe de la grâce, comme le règne futur de Christ ressuscité sera entièrement basé sur la grâce triomphante à la croix. À la suite du sacrifice de Morija et en vertu de la perfection personnelle du souverain, ce dernier pourra désormais entrer dans son temple. Les portes éternelles hausseront leur linteau pour laisser passer le roi de gloire. Il aura une riche entrée dans son propre royaume. Nous ne trouvons que dans les chroniques l'immense hauteur de ce portique. Chapitre 3, verset 4, voir psaume 24, versets 7 et 9, Malachie 3, verset 1, Agé 2, verset 7, 2 Pierre 1, versets 11 et 17. Encore un détail caractéristique, on ne voit ici sur les murailles de la maison que des palmiers et des chênes. Les palmiers sont les symboles de la paix triomphale. Les chênes, Charchéra, qui de même garnissent ici les colonnes, ne sont mentionnés nulle autre part que sur les épaulières et le pectoral du souverain sacrificateur. Elles en rassemblent fermement les diverses parties et paraissent symboliser la solidité du lien qui forme en unité le peuple de Dieu. Plus de fleurs entrouvertes, signe d'un règne qui commence à s'épanouir, comme dans le livre des rois. Ici, le règne est définitivement établi. Plus de chérubins cachés sous l'or des murailles. Ils ne paraissent que sur le voile. Il n'y a plus de pensées secrètes, de conseils cachés de Dieu. Ils sont maintenant mis en évidence dans la personne de Christ, mais établis sur le voile qui est sa chair livrée à la mort. Dans le lieu très saint, deux chérubins debout, les ailes étendues, regardent au dehors vers la maison, chapitre 3, verset 13, fait qui n'est mentionné qu'ici, et contemplent l'ordre désormais établi du peuple de Dieu. Les colonnes, Jacquin et Boaz, il établira, et en lui est la force, ne peuvent manquer dans ce tableau, emblème d'un règne désormais établi et dépendant entièrement de la puissance qui est en Christ. Autre détail intéressant. Salomon fit 10 tables et les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Chapitre 4, verset 8. 1 Roi 7, verset 48 n'en mentionne qu'une. N'est-il pas frappant de voir les pains de proposition multipliés ainsi 10 fois? Salomon est considéré comme assis sur le trône de l'Éternel. 1 Chronique 29, verset 23. Israël s'accroît sous son règne. Ce sont toujours les mêmes tribus, mais augmentées à l'infini sous les yeux du Dieu qui les contemple et les gouverne. Le vrai Salomon, Christ lui-même, est l'auteur de cette multiplication. Chapitre 4, verset 8. Dans le millénium, Israël sera au complet comme présenté à Dieu par Christ, une offrande agréée de l'Éternel.